Voilà donc ces textes qui ont fait réagir Voltaire et d'autres avant lui et peut-être après lui. Qu'est-ce que, diable, Paul a bien voulu dire par ces paroles, me direz-vous? Parce que force est de constater qu'aujourd'hui encore, ces paroles continuent de faire réfléchir, de révolter, en tout cas les femmes. Les hommes, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se disent « Oh, ben, moi, ça m'arrange. » Mais qu'est-ce que Paul a bien voulu dire? Alors, une des explications que je trouve intéressante est la suivante. C'est que Paul avait des idées à faire passer. Jésus était un révolutionnaire à sa manière. Et comme beaucoup de révolutionnaires, il a fini sur une croix tant ses idées dérangeaient. Jésus a essayé de bouleverser un bout les mentalités de son temps, mais on sait que c'est difficile, que c'est lent et long et parfois pénible. On peut donc se demander si ces phrases où Paul demande aux femmes d'être soumises à leur mari et où il affirme que le mari est le chef de la femme, est-ce que ce ne sont pas peut-être des manières, est-ce que Paul ne reprend pas là des manières de dire les choses qui étaient fréquentes à son époque et qui lui permettaient de conquérir son auditoire? Parce que peut-être s'il avait d'emblée été un peu chamboulé cet ordre des choses, peut-être les gens auraient-ils simplement bouché leurs oreilles en se disant « Ce révolutionnaire-là, il n'a rien compris à ce qui est, ce qui fait partie des bonnes mœurs de notre temps et donc nous ne l'écouterons pas. » Paul, en effet, affirme dans ses textes que Carole nous a lus, il affirme la primauté de l'amour. Il ne conteste pas, à première vue, une situation culturelle où une position d'autorité était reconnue à l'homme, mais il montre comment la primauté de l'homme devient en Jésus-Christ une primauté de l'amour. Et cette primauté, il la développe en opposition à des abus possibles commis par des hommes qui utilisaient leur situation de chef comme en tant que mari pour qu'ils découvrent une autre manière d'exercer leur position où l'amour est empreint de l'exemple donné par le Christ et donc où finalement il y a de nombreuses exigences envers les messieurs. Vous l'avez peut-être remarqué. Lorsqu'il dit « Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps », c'est beaucoup. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, etc. Donc, nous voyons, lorsque Paul compare l'amour du mari envers sa femme à celui du Christ pour l'Église, qui a été jusqu'à donner sa propre vie pour elle, pour nous, qui sommes Église, nous voyons qu'il y a une grande abnégation. C'est l'inverse d'une manière d'exercer un rôle de chef autoritaire, humiliant, rabaissant. Christ a fait tout l'inverse. Paul affirme donc que la relation entre l'homme et sa femme ne peut plus être déterminée par des réflexes de supériorité, mais par une attitude de dépossession, d'abandon, et il invite aussi les femmes à respecter réellement leur mari. J'étais interpellée par une affirmation de celle que j'appelle ma future belle-fille, qui me disait comme ça, « Mais j'aime Jonathan, mon fils, mais des fois je réalise que je ne le respecte pas tout à fait. » Je trouvais intéressant la distinction. Pour elle, respecter, elle avait l'impression de l'aimer beaucoup. Mais il disait non, il y a des domaines, des moments où je ne le respecte pas vraiment. Respecter réellement l'autre, voilà qui est un de ces appels que Paul adresse aux femmes en particulier. Mais au fond, il affirme que l'union conjugale devrait être pleinement placée dans une sorte d'acte d'offrande du Christ qui, en se livrant pour l'humanité, a manifesté la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Et si ainsi nous sortons d'un rapport de force, d'un rapport de rivalité au sein du couple. Et quelque part, nous avons tout compris. C'est là un ordre nouveau que Christ est venu instaurer dans les rapports entre hommes et femmes. Et au fond, si on comprend bien ce texte, ces textes, chaque membre du couple aurait à vaincre sa tentation propre. Pour la femme, elle est invitée à respecter véritablement son époux. Et il s'agirait là de ne pas simuler une fausse soumission et de ne pas se jouer de son mari en le dominant en réalité. Et quant au mari, atteint dans ses prérogative masculine, il lui faudrait apprendre à se méfier de ses réflexes de domination. Oui, Paul appelle à une transformation des rapports humains et il réclame une conversion, un changement intérieur de l'un et de l'autre. Il invite à une reconnaissance mutuelle. Aucun des deux au sein du couple ne cherchant à priver l'autre de la reconnaissance de ce qu'il est, de sa personnalité, de ses besoins. Le but de Paul est véritablement de faire progresser les relations de couple dans le sens de l'amour du Christ. On pourrait faire allusion à Philippiens 2 qui nous dit « Mais considérez l'autre comme étant plus important que vous-même, supérieur à vous-même. » C'est au fond une manière de sortir de ce rapport de force, sortir de cette rivalité qui empoisonne pas mal de nos couples. Sortir de cette rivalité, c'est aussi tenir compte des besoins, des aspirations profondes de l'autre, de son conjoint. Vous savez que la plupart des femmes, si on leur demande leurs besoins prioritaires, premiers, elles vont vous dire qu'elles ont besoin de quoi ? Protection, hein ? Je ne l'ai pas mis en premier, mais il va venir. Oui, protection. Qu'est-ce qui viendra en premier ? Messieurs, comment ?
L'indépendance.
Ah, je ne l'ai pas mis en premier non plus, mais il existe, oui. Messieurs, le premier besoin d'une femme.
L'amour.
L'affection. Hein? L'amour, l'affection. Et le premier besoin d'un homme, mesdames. Comment ? Ah, il a aussi besoin d'amour, mais je ne l'ai pas mis en premier. Mesdames, premier besoin d'un homme. Ah, aussi, mais je ne l'ai pas non plus mis en premier. Les statistiques montre que le premier besoin d'un homme dans un couple, c'est la sexualité. Le premier besoin d'une femme, c'est l'affection. Deuxième besoin d'une femme, c'est quoi ? C'est la communication, besoin de parler. Hein, messieurs, qu'est-ce que vous êtes sûrement envahis par vos femmes qui ont besoin de parler, d'expliquer, de vérifier, de comprendre, de... Et le deuxième besoin des hommes, trouver dans son conjoint, dans sa conjointe, une partenaire de jeu, quelqu'un avec qui faire des activités, bouger. Hein, les messieurs, ils sont beaucoup plus dans le mouvement, dans l'activité. Puis les femmes, elles veulent parler. Parler, toujours. Ensuite, on a l'honnêteté. La femme a besoin d'honnêteté, d'être sûre qu'elle peut faire confiance à celui qui est là. Elle veut vérifier ses intentions, être sûre que son cœur est vrai, qu'il n'est pas en train de la manipuler, de l'amener en bateau. Puis l'homme, il a besoin de propos séduisants, de propos, de propos flatteurs, propos qui l'encouragent, qui lui font du bien. C'est aussi un peu la valorisation. Puis la femme, elle a besoin de sécurité et d'engagement. Être sûre que l'autre est là et qu'il ne prend pas la relation à la légère. Et l'homme a besoin de paix, mesdames. Il a besoin de paix, de calme, parfois, que les paroles s'estompent pour qu'on lui fiche la paix. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Il y a ensuite des variantes, on est bien d'accord. Mais je trouve intéressant d'être attentif à ces éléments qui ressortent des statistiques parce qu'elles nous disent quelque chose de l'autre et parfois du décalage qu'il y a entre un homme et une femme, entre des besoins différents. Et qu'au fond, l'amour auquel Paul appelle tant l'homme que la femme au sein d'un couple, cet amour devrait se concrétiser dans l'attention aux besoins décalés de l'autre par rapport à mes propres besoins. aussi longtemps que je pense que l'autre a les mêmes besoins que moi, il va être frustré et nous allons être dans un rapport de force où je vais chercher à lui imposer ce qui est important pour moi, alors que d'autres choses sont importantes pour lui. Sortir de ce rapport de force, c'est être attentif aux besoins de l'autre, à ce qu'il est, en tant qu'homme, en tant que femme, dans sa génétique différente, dans son héritage différent, car bien sûr, nous sommes une génétique, mais nous sommes influencés par la société et par ce que notre société dit au sujet de l'homme et au sujet de la femme. Donc, c'est avec tous ces éléments que Paul invite les hommes et les femmes de son temps à être soumis les uns aux autres, finalement. Être soumis les uns aux autres, être attentifs à l'autre, respecter ses idées, ne pas lui imposer les nôtres, afin que l'un et l'autre puissent être reconnus et s'épanouir dans ce qu'ils sont, dans ce qui les habite au plus profond d'eux-mêmes, et qu'ainsi nos relations soient empreintes par le modèle d'amour que Jésus nous a donné. Amen.